fremde Kulturen ins Rübliland. Kompass. Jetzt auf Kanal K.
Zusammen, Sie sind live in der Sendung Fenster auf Afrika, eine afrikanische Politik- und Kultursendung. Ich bin Sylvain Amos am Mikrofon. Bonsoir à toute l'Afrique, amis auditeurs de Canal K, merci de votre fidélité et bienvenue au programme panafricain de Fenêtre sur l'Afrique. Un seul sujet retiendra votre attention ce soir, eh bien, c'est la polémique autour de la francophonie qui s'est tenue du 13 au 14 octobre dernier à Kinshasa, en RDC. Qu'apporte réellement la francophonie à l'Afrique? Existe-t-il une francophonie économique entre la France et l'Afrique? Eh bien, pour en parler, dans toute la première partie dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique, deux invités, Dr Bruno Ella Nguema, professeur à l'Université de Bordeaux et président de la Convention de la diaspora gabonaise. Le deuxième invité, Joseph Pouloulou, journaliste congolais en France. Bien, dans cette émission, l'équipe est au complet. Tout de suite, Romain est en ligne, en direct depuis Beaune, et pour son coup de gueule sur la francophonie.
Francophonie, une honte pour la France. Au courant de la semaine passée, le président français, François Hollande, s'est rendu en RDC pour le sommet de la francophonie. Force est de rappeler que la francophonie est politique depuis 40 ans. Cette organisation est née en 1968 d'une entente intergouvernementale. Donc c'est aussi un mouvement politique que culturel. La belle preuve est que Hollande est allé parler du respect des droits de l'homme aussi bien que de la culture linguistique en se référant à l'affaire Chepéa. Par ailleurs, en 1990, les dirigeants de la francophonie n'étaient pas restés silencieux sur les libertés humaines et sur la culture démocratique. Seulement, l'hypocrisie de la France, de la grande France, ne permet pas un discours ferme, pouvant mettre au pas les dictateurs qui sont les pourvoyeurs de fonds de la France en période électorale. Aujourd'hui, un des principaux défis de la francophonie doit être de comprendre l'immense intérêt que cette organisation a à soutenir les démocrates africains sans perdre leur intérêt multiforme. Pour consolider sa position dans l'espace culturel africain, la première priorité de la francophonie doit être plus axée sur le respect des droits de l'homme sur le continent, car la culture des Africains, on n'en a que cure. Les Africains ont la leur depuis la nuit des temps. À mon avis, il est tragiquement scandaleux que la francophonie n'ait pas contribué d'une façon plus décisive à la scolarisation des enfants africains francophones pour leur permettre de connaître leurs droits les plus élémentaires en matière du respect de la dignité humaine. Il y a encore des pays africains où 30% à 40% des enfants n'iront jamais à l'école une seule journée de leur vie. En termes de droits humains, c'est profondément inacceptable. Et dans ce cas de figure, la francophonie a échoué. En termes d'intérêt de la francophonie, c'est totalement incongru que c'est à l'école que les enfants africains apprennent la langue et peuvent être capables de défendre leurs intérêts. Et ensuite, ce n'est pas du tout une fierté pour la grandeur de la France que ceux qui parlent la langue des défenseurs des droits de l'homme, comme j'ai nommé le Gabon, le Cameroun, le Togo, le Burkina et autres, puissent fouler aux pieds les droits élémentaires de la dignité humaine et que la France joue encore l'hypocrisie comme d'habitude envers eux en évitant de taper du poing sur la table en abordant des questions qui fâchent. La France doit revoir sa copie et exiger un minimum de respect des droits de l'homme dans ces pays opaques et réfractaires à la démocratie. Et en le faisant, la France aurait grandi et attiré d'autres pays dans son giron francophone. Mais une chose est certaine, avec ou sans la France, l'Afrique connaîtra son épanouissement et son affirmation totale. Vivement que ce jour arrive.
Africa, c'est du blague et tu es. La politique America, Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. La politique France Africa, c'est du blague et tu es. La politique America, Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. Puis nous vend les hommes pendant que nous nous battons, et puis nos richesses. Et c'est des êtres suffis de voir l'Afrique toujours en guerre. Ils ont brûlé le Congo, enflammé l'Angola, ils ont ruiné le Gabon, ils ont brûlé Kinshasa. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique America-Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique America, Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. Ils cautionnent la dictature, tout ça pour nous affamer. Ils pillent nos richesses pour nous enterrer vivants. Ils ont brûlé le Congo, enflammé l'Angola. Ils ont brûlé Kinshasa, ils ont brûlé Rwanda. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique America, Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. La politique France Africa, c'est du blague et tu es. La politique America, Africa.
Eh bien, la politique France Afrique, c'est du blague et tu es, chanté par Tikendia Fakoli. Malgré toute polémique, le président français François Hollande a bel et bien pris part au 14e sommet de la francophonie tenu il y a quelques jours en République démocratique du Congo. Sa présence à ce sommet a suscité de vives réactions et a divisé les Congolais. Certains Africains pensent même que la RDC n'est pas en réalité un pays démocratique pouvant abriter ce 14e sommet de la francophonie. Pour le président français, sa présence à ce sommet est irréfutable, car, toujours selon ses propos, il veut constater de visu, en République démocratique du Congo, les rapports des ONG internationales sur les graves violations des droits de l'homme. D'ailleurs, dans une vidéo diffusée sur une chaîne de télévision française, démontre l'inattention de Hollande lors du discours de son homologue congolais, Joseph Kabila. C'est-à-dire que François Hollande est-il en total déphasage avec la gouvernance du dirigeant congolais? Qu'apporte réellement la francophonie, sinon la France-Afrique, au continent noir? Eh bien, nous allons en parler dans un instant, dans cette émission, avec nos invités qui sont tout à l'heure dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique.
TogoCity.com, IciLomé.com, CVU-Togo, diaspora.org, mo5-togo.com, togo-online.co.uk sont nos sites d'information partenaires de Fenêtre sur l'Afrique. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Bien, vous êtes dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Nous sommes la voix des opprimés. Nous parlerons tout à l'heure, ou bien nous allons débattre ensemble avec mes invités qui sont tout de suite en direct depuis la France. D'abord, monsieur Joseph Pouloulou, journaliste congolais. Il est en direct depuis la France. Bonsoir, Joseph Pouloulou.
Bonsoir, Sylvain Amos. Bonsoir à tous les auditeurs de Fenêtre sur Afrique.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Également en France, Dr Bruno Elane Guéman, il est professeur à l'Université de Bordeaux et président de la Convention de la diaspora gabonaise. Alors, Dr Bruno Elane Guéman, bonsoir et merci d'être avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique.
Bonsoir, Monsieur Amos. Merci de m'inviter à cette émission très stratégique parce qu'elle est intéressante dans la mesure où elle parle beaucoup d'Afrique.
Merci beaucoup. Alors, bien avant de commencer ce débat, et puisque la francophonie s'est tenue en RDC, nous avons également un confrère journaliste depuis la RDC. Nous l'accueillons tout de suite en direct depuis Kinshasa. Luc Kabongatre, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être en direct avec nous depuis Kinshasa en RDC. Vous êtes journaliste, directeur d'information à la télévision Congo Web. Vous êtes aussi patron du journal Nouveau Regard. Alors, dites-nous brièvement ce que pensent les Congolais de la tenue du 14e sommet de la francophonie dans votre pays, la RDC. Luc Kabongatre.
Bon, d'une manière générale, les Congolais sont satisfaits de la tenue du sommet de la francophonie à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Hein. Et la population a beaucoup apprécié le fait que la République démocratique du Congo ait redressé sa tête noyée longtemps dans les vagues et les flots, notamment de la guerre dans l'Est, la crise économique. La population a approuvé la visibilité de la République démocratique du Congo, de sa capitale Kinshasa, visitée par une bonne kyrielle de chefs d'État et de gouvernement. La population a approuvé également la condamnation formelle par l'espace francophone du Rwanda, qui est un pays francophone tout de même, même si le Rwanda semble basculer vers l'espace anglophone, le Commonwealth notamment. C'était une condamnation formelle parce que depuis que cette guerre existe, depuis que le Rwanda a fait des incursions, agresse la République démocratique du Congo, il n'y avait pas encore de condamnation directe, formelle, j'ai dit. Donc la population a beaucoup apprécié ce qu'on appelle désormais la déclaration de Kinshasa. Le Rwanda, c'est à Kinshasa la métaphore du poussin qui remplit la marmite. Et donc, les Congolais voudraient que cette position aille jusqu'au bout de sa logique. Mais malheureusement, elle n'a pas approuvé du tout la mise à l'écart de la population, son exclusion, comme si le sommet de la francophonie était exclusivement une affaire des autres. Les autres entendaient le pouvoir, notamment la majorité, et puisque, comme vous le savez, la population était tenue loin de toutes les manifestations, la ville quadrillée, et l'opposition radicalement exclue des assises de Kinshasa. On a parlé de l'affaire Vital Kamerhe qui s'est vu refuser l'accès au Palais du Peuple pour participer à une émission organisée par TV5. Cela a mal été perçu par la population chinoise, congolaise dans son ensemble.
Oui, et Luc Kabongatre, est-ce qu'il y avait eu une couverture médiatique équitable et pour les organes de presse en RDC?
Et là encore, c'est un point qui a, je veux le dire brutalement, radicalement, totalement, globalement, qui a été un échec cuisant, puisque la couverture médiatique n'était pas équitable. Et beaucoup de chaînes de télévision de renom, dont la mienne, n'ont pas pu avoir l'accréditation et obtenir l'accréditation était devenu un véritable combat. Et donc, le comité organisateur a fait du n'importe quoi et cela a fait preuve d'amateurisme. Cela a donné même l'impression que quelque part, le comité qui avait en charge l'organisation de médias voulait régler les comptes avec XY, avec certains médias. Et donc, c'est la chose qui a véritablement échoué pendant ce sommet.
Luc Kabongatre, merci d'avoir été en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Vous êtes directeur d'information à la télévision Congo Web, également patron du journal Nouveau Regard. Merci en tout cas d'avoir été en direct avec nous depuis Kinshasa en RDC.
VRA, Voix de la Résistance Africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
Eh bien, retour au studio avec mes invités et pour discuter de la francophonie. Qu'apporte réellement la francophonie à l'Afrique? Existe-t-il une francophonie économique entre la France et l'Afrique? Eh bien, je l'avais annoncé, nos invités sont déjà en ligne en direct depuis la France. Alors, je m'adresse maintenant à Joseph Pouloulou, qui est journaliste. Alors, vous venez de suivre, tout comme nos auditeurs, les réactions de notre confrère Luc Kabongatre, et qui dit que la population congolaise est tenue loin des manifestations lors du sommet de la francophonie en RDC. Il affirme également que l'opposition est radicalement exclue de ce sommet. Et finalement, il parle aussi des difficultés à obtenir des accréditations pour la couverture médiatique de ce sommet. Alors, Joseph Pouloulou, vous êtes aussi congolais, et votre réaction et quelle lecture faites-vous de la situation, Joseph Pouloulou?
Merci Sylvain, je trouve que l'analyse de Kabongatre n'est pas loin de celle que nous faisons nous-mêmes. C'était un sommet aseptisé, c'est-à-dire qu'il fallait montrer le visage le plus aseptisé de cette RDC, d'une part, et d'autre part aussi, la francophonie a encore une fois démontré qu'elle était une sorte de petit club de chefs d'État et qui ne voit pas le problème de population. En tout cas, c'est ça, et vu sous cet angle, on peut se demander à quoi sert la francophonie. N'oublions pas, ne fût-ce que pour la couverture, nous-mêmes, nous avions tenté d'obtenir une accréditation, puisque quand les événements se passent au Congo Kinshasa, notre radio, qui existe depuis 12 ans en région parisienne, est très suivie aussi de la communauté congolaise, nous avons sollicité cette accréditation, et on ne l'a pas eue. Donc, ce qui démontre encore une fois que tout a été géré d'un bout à l'autre de la chaîne d'information, et c'est en tout cas beaucoup de gens l'attestent, ça a été vraiment bien bridé pour que rien, aucune note discordante ne vienne en tout cas sortir au sein de la presse, mais ça n'a pas empêché qu'à l'extérieur, eh bien, notamment, on n'ait pas eu à relever justement cette note discordante.
Joseph Pouloulou, alors là, et je pense que c'est sur votre téléphone portable que vous êtes en train de débattre avec nous. Le réseau téléphonique dérange un petit peu. Et sinon, vous pouvez bouger un petit peu de votre position, et puisque peut-être ça peut changer un petit peu la qualité du son. Alors, nous avons également Dr Bruno Bella Nguema, qui est professeur à l'Université de Bordeaux et président de la Convention de la diaspora gabonaise. Il est également en ligne en direct depuis la France également. Alors, docteur Bruno Bella Nguema, il y a eu toute une polémique autour de la présence de François Hollande au sommet de la francophonie en RDC. Alors, quel est votre avis sur la participation du président français à ce sommet à Kinshasa?
Oui, merci M. Annonce. Effectivement, on pourrait l'analyser de plusieurs manières, hein. C'est-à-dire que, comme je viens d'écouter, on va dire, le compatriote africain tout à l'heure, qui...
Depuis le Congo.
Oui, depuis le Congo, qui qualifiait cette francophonie d'une espèce de club de chefs d'État. Bon, oui, mais ça se partage. C'est-à-dire que on peut regarder ça sous deux angles principaux. Hein. D'abord, la France elle-même, quelle est son attitude dans cette francophonie, et les États francophones, quelles sont leurs positions dans cette francophonie? Moi, je pense que le ton du nouveau chef d'État français est quand même un ton qu'on peut, je ne dirais pas dont on peut se réjouir, mais qui est quand même qui apporte, on va dire, une partition qui devrait amener les Africains à réfléchir de manière positive, dans ce sens que c'est un message qui est porteur de beaucoup de choses. Maintenant, c'est pas à la France d'impulser et d'être acteur sur le terrain, d'être parti sur le terrain. il revient quand même avant tout aux Africains eux-mêmes de prendre conscience des problèmes qui minent leur quotidien.
Justement, et il appartient aux Africains eux-mêmes de chercher, de fouiller, à résoudre ce qui ne va pas en Afrique, que franchement, l'Afrique, elle va très, très, très mal. Alors, Joseph Pouloulou, le français, c'est la langue de l'Afrique, affirmait François Hollande, hein, un Africain congolais, et pourrait aussi dire que le Lingala, langue majoritairement parlée en République démocratique du Congo, est une langue de l'Afrique, hein. Un Congolais pourrait le dire comme ça aussi. Alors, à quoi sert aujourd'hui la francophonie selon vous, et Joseph Pouloulou?
Écoutez, la francophonie, c'est un peu pour meubler cette nostalgie des rapports qu'on a avec les anciennes métropoles, la France particulièrement. Le rêve de tout jeune Africain, c'est toujours été la France. Or, cette France-là, rêvée, n'existe plus. Et même les Français eux-mêmes semblent ne plus voir que le monde est en train de se tourner vers la Chine, par exemple, ou l'espace anglophone. Et c'est là justement que pour beaucoup de jeunes, cet espace francophone devient un rêve lointain. Ils n'ont presque plus le droit de venir en France, ils sont pourchassés, ils n'ont même plus le droit d'avoir le visa. Donc c'est ça aussi, il faut que la France revoie sa copie dans ses rapports avec cette Afrique. N'oubliez pas, nous, notre génération a été nourrie justement avec cette langue, mais la nouvelle génération semble s'éloigner de cette France. Elle ne s'habille plus français, elle s'habille chinois, elle ne mange plus français, elle mange peut-être Afrique. C'est là aussi où on peut se demander maintenant à quoi sert encore cette francophonie, peut-être pour que nos chefs d'État viennent y loger leur compte.
Oui, et nous allons donner également la parole au docteur Nguema. Alors, le docteur Nguema, lui, il est gabonais. Hein. Alors, le Gabon est l'un des pays francophones qui est le plus touché par le système communément appelé la France-Afrique. Alors, à quoi sert donc la francophonie, par exemple, pour votre pays, le Gabon?
C'est-à-dire que il faut reconnaître une chose. Nous sommes historiquement liés à la France à cause justement de l'époque coloniale et tout ce que vous savez. Et nous avons une partie, pas toute notre culture, une bonne partie de notre culture qui est justement seule influencée par la France. Et il faut savoir que malgré le fait qu'une culture soit quelque chose de muable, tant sur le plan endogène que sur le plan exogène, nous ne pouvons pas nier cela. C'est-à-dire que c'est une réalité qui configure aujourd'hui notre imaginaire, notre quotidien et même nos réflexes les plus primaires. Par conséquent, on ne peut pas le nier ça, on doit faire avec. En revanche, cette francophonie, il faut le reconnaître, elle pourrait être une véritable plateforme à débattre et à proposer des solutions à certains problèmes fondamentaux. Par exemple, ceux d'un déficit réel de démocratie, de droits de l'homme, de l'état de droit et de gouvernance dans tous ces pays francophones. Et ça, c'est un dénominateur commun négatif qu'on trouve justement dans ces pays francophones. Pourquoi? Très certainement à cause des travers de cette francophonie qui, en fait, est une opportunité, est un strapontin à certains systèmes, je dirais, malveillants, qui entretiennent justement une espèce de politique malsaine qui est celle de maintenir en place des dictatures qui desservent justement le peuple africain. Et c'est pour ça que je dis que la francophonie a ses travers, mais si les nouveaux gouvernants français comprenaient, s'ils allaient au fond du discours qu'ils ont tenu, je pense que la francophonie peut être un bon levier à différents aspects pour développer cette Afrique francophone.
Joseph Pouloulou, est-ce que vous partagez également cet avis avec le docteur Bella Nguema?
Je dis qu'il y a un peu d'angélisme dans les propos de Dr Bella Nguema, parce que c'est là où je dis que il y a quelque chose peut-être d'un peu pourri dans la France-Afrique. Il y a quelque temps, il y a un rapport de la DST qui montrait que, par exemple, le patriotisme africain est mal vu depuis la France. C'est-à-dire que le but du jeu peut-être, et on le voit avec le Rwanda, tant que le Rwanda peut s'affranchir quelque part de la francophonie, elle peut se permettre aussi de fouler aux pieds les idéaux ou même les préceptes de cette francophonie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les Africains doivent s'affranchir quelque part de ce poids de la France à travers la francophonie. Il reste bien entendu qu'on ne rejette rien. Je parle de cette nouvelle génération. Nous sommes encore très attachés à la France. Ben, par contre, la nouvelle génération, elle n'est pas accueillie en France. Je le répète, c'est-à-dire tant que la France fermera ses portes à cette nouvelle génération, eh bien, le fossé va se creuser. Peut-être il y a quelques pays qui ont encore les faveurs de la France qui peuvent avoir des visas, mais pour la majorité, la grande majorité des pays francophones, eh bien, la France s'éloigne. Et je pense que la France doit encore une fois rester en elle-même. Ensuite, pour ces pays d'Afrique, on l'a vu, rappelez-vous, Nicolas Sarkozy avait dit aux jeunes d'Afrique à Dakar, parce que derrière le discours de Dakar, il y avait aussi cette promesse, prenez les choses en main, on sera derrière vous, et ils n'ont jamais été derrière eux. C'est-à-dire que les systèmes mafieux, les dictatures sont encore là, et la francophonie, ou la France-Afrique, en tout cas c'est du pareil eux-mêmes à mes yeux, et elle n'est pas là pour aider les pays africains à vivre une vraie démocratie. Regardons François Hollande qui vient d'arriver, s'il fera autre chose que Nicolas Sarkozy, mais à première vue, moi, je reste sceptique quant à ce que la francophonie, qui reste un club de chefs d'État, se transforme vraiment par un instrument pour implanter la démocratie dans les pays d'Afrique. Voilà, en quelques mots, moi je sais que quand Maître Ouad a voulu s'imposer, il a même obtenu son passage à force, en force pour se présenter à un troisième mandat, et on a à peine entendu des condamnations. Donc voilà, tout ce qui, aux yeux de cette nouvelle génération africaine, rend sceptique quant à ce que la francophonie soit un instrument de démocratie.
Professeur Bruno Elanguema, vu tout ce développement que vient de faire le journaliste Joseph Pouloulou, est-ce que la francophonie apporte concrètement quelque chose à l'Afrique, professeur Nguema?
Oui, c'est-à-dire que il faudrait pas qu'on confonde les choses, c'est-à-dire que s'affranchir de la francophonie, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire s'affranchir de la langue française ou s'affranchir de mécanismes qui sont incarnés à travers cette francophonie? Ça encore, j'espère que ça sera l'objet d'un prochain débat. Maintenant, de ce qui est de la francophonie, au sens étymologique du terme, je pense que il n'y a pas un avantage à vouloir réorienter son logos à travers une autre langue. Ça serait perdre du temps. Ça serait perdre de l'énergie et encore beaucoup d'argent. Cela dit, la souveraineté d'un État et son indépendance ne se décrètent pas. Hein. C'est le cas d'ailleurs de beaucoup de ces pays francophones. Ces libertés et cette dignité fondamentale, en fait, s'acquiert au gré d'un investissement sérieux à l'échelle d'un État et de sa nation. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas continuer à fustiger, à renvoyer la responsabilité de nos manquements à l'autre. C'est-à-dire que à la francophonie, aux colons, à ces réseaux-là. Il faut tant soit peu se remettre aussi en cause. Pourquoi? Tout simplement parce que moi je préfère croire à la capacité de tout homme à s'affranchir à un statut respectable, à la seule et à la seule condition que le peuple, ce peuple qui est dominé, comprennent que la vie elle-même, dans son essence, n'est pas un champ de tendresse. Bien au contraire, elle est assez violente depuis même la création de l'humanité. C'est-à-dire qu'il est inadmissible de croire que, il est incompréhensible que de croire que, dans ce monde, qui est défini par des déterminants bien précis,
à savoir l'énergie, que nous croyons que, voilà, les autres vont nous laisser tranquillement évoluer sans développer l'instinct prédateur de l'être humain à vouloir justement aussi accommoder le quotidien de sa vie. C'est pour ça que toutes ces puissances viennent convoiter nos richesses et c'est tout à fait naturel. C'est aux Africains de comprendre ou à comprendre que tant qu'ils ne pourront pas s'organiser d'eux-mêmes, comprendre les mécanismes qui font des autres des puissances et s'organiser en conséquence,
justement,
nous continuerons toujours à crier
bien sûr
la francophonie,
à l'aide,
le colon, le machin,
merci,
sans arriver à quoi que ce soit, qui soit vraiment bénéfique à l'Afrique.
Justement, nous parlons justement de ce qu'apporte la francophonie à l'Afrique. Alors, Joseph Pouloulou, et cette francophonie et l'immigration choisie, est-ce que cela continue selon vous?
Je l'ai évoqué un temps soit peu. Aujourd'hui, les portes de la France sont fermées. Toutes les promesses, entre guillemets, de l'immigration choisie n'ont pas été réalisées. En France, nous le voyons, la visibilité de cette Afrique, ne pour ne prendre que à l'université, l'accès à l'université française pour la nouvelle génération, les jeunes africains, est pratiquement fermé. On l'a vu, les mesures pour les jeunes, d'ailleurs c'est un jeune gabonais d'ailleurs, qui n'ont même pas accès à... pour les stages et tout de suite même pour le travail, et on veut tout de suite les remettre dans le premier avion. Je pense que c'est tout ça où, à la fin, les jeunes cadres africains qui peuvent se former en France avec cette langue de prédilection se voient fermer les portes. Or, si on ferme les portes à ces cadres, à cette nouvelle génération, on ferme aussi les portes à l'expansion de cette langue. François Hollande a eu, comment dirais-je, l'honnêteté de reconnaître que c'est en Afrique que va se développer cette langue. Mais à quoi elle servait cette langue si elle est limitée qu'à la culture et si elle ne s'étend pas à tous les autres domaines de compétences, comme on le sait dans notre monde d'aujourd'hui? C'est là où je dis que aujourd'hui la France doit revoir en tout cas son logiciel, puisque tout ce qui a été mis en place pendant les 5 dernières années avec Nicolas Sarkozy, tous ces besoins sont encore là et il est très difficile pour un jeune Africain aujourd'hui de croire en cette communauté francophone.
Alors, docteur Bruno Elangema, je vous pose la même question. Est-ce que la francophonie favorise l'immigration choisie? Et si oui, qu'est-ce que cela apporte concrètement à l'Afrique, docteur Nguema?
Oui, en effet, votre invité, celui qui vient d'intervenir, il a tout à fait raison.
Joseph Pouloulou, le Congolais.
Monsieur Pouloulou a tout à fait raison, parce que effectivement, il y a eu plein de mesures comme ça qui ont été prises par le gouvernement précédent, qui tendaient à fermer, en fait, la porte aux jeunes talents africains, ne sachant pas qu'en fait, ça desservait la porte politique africaine, si ce n'est même la porte politique française, si ce n'est l'économie française. Mais il faut reconnaître une chose, c'est que l'actuel gouvernement, justement, a rompu avec ses traditions, avec ses mesures qui étaient plutôt rédhibitoires et même négatives pour la France. Donc, le nouveau gouvernement est en train de revenir là-dessus en encourageant, justement, cet échange entre les jeunes talents africains et le savoir-faire français. Donc, l'immigration choisie, je ne sais pas trop ce que cette terminologie voulait dire, mais en tout cas, il est sûr que lorsque l'Afrique, lorsque les pays francophones présentent de jeunes talents, de intelligence, il est tout à fait normal que ces intelligences soient protégées et de manière à venir perfectionner, parfaire leurs talents, leur patrimoine intellectuel et scientifique dans des pays qui regorgent justement d'infrastructures mieux que ces pays africains. Ça, moi j'encourage, je reconnais bien sûr, vous allez me dire que ce sont des bonnes paroles, mais je ne sais pas si l'homme était fait sans parole, s'il serait homme. Donc, le discours prononcé par François Hollande en Afrique, lors de ce sommet, à mon avis, me laisse plein d'espoir, même si ça peut paraître une
bien
forme d'angélisme, mais je pense qu'il faut commencer par là.
Alors, rapidement, une dernière question, puisque nous devons laisser également d'autres panafricanistes réagir par rapport à ce débat sur la francophonie. Alors, Joseph Pouloulou, et pour vous, la France doit revoir sa copie. Existe-t-il une francophonie économique entre la France et l'Afrique, Joseph Pouloulou?
Ah ben, vous savez, le franc CFA, le CFA reste le comptoir français d'Afrique, mais dernièrement, peut-être vous l'avez pas vu passer, mais la CFAO, qui était quand même le modèle, l'emblème même de cette relation économique entre la France et l'Afrique, la CFAO vient d'être vendue à des Japonais. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la France se sort lui-même du jeu économique en Afrique. Et c'est là tout ce qui fait mal pour des gens qui, comme nous, avons cru en cette relation économique entre la France et l'Afrique. Évidemment, il restera le franc CFA, mais ce franc CFA va-t-il résister quand l'Europe traverse des crises comme celle-là? Donc c'est là toute la question. La France a-t-elle encore envie de se battre sur le terrain économique en Afrique? C'est là où nous, en tant qu'observateurs, en tant que journalistes, nous disons peut-être pas, peut-être que la France est-elle en train de laisser passer son tour en se disant « j'ai beaucoup fait, je regarde les autres, puis peut-être que je reviendrai ». Et c'est ça, cette francophonie économique qui a du mal à se mettre en place, qui a du mal à embrayer alors qu'elle avait déjà, avec le franc CFA, un pied déjà dedans. Mais malheureusement, voilà, toutes les grandes entreprises
bien se
retirent et ceux qui sont là, c'est plus des prédateurs.
Merci beaucoup, Joseph Pouloulou. Et docteur Bruno Elanguema, est-ce que François Hollande est-il sérieux et quand il parle de l'économie et quand il aborde le côté économique de la francophonie avec l'Afrique?
Oui, moi je pense que cet homme est sérieux parce qu'il faut connaître l'homme, c'est quand même un homme de principe. N'oublions pas que la francophonie compte environ 70 États et gouvernements membres répartis dans les 5 continents, hein, avec près d'un tiers de la population mondiale et 19% des exportations et importations mondiales. De plus, ces pays francophones échangent entre eux et les investissements réalisés dans cet espace représentent environ 26% des investissements mondiaux, ce qui n'est pas négligeable. Bon, cela dit, effectivement, la francophonie n'est pas encore parvenue, ça c'est sûr, à s'imposer comme un acteur économique significatif sur l'échiquier mondial. Mais c'est pourquoi? Pourquoi elle en est là? Tout simplement parce que les choix politiques qui étaient faits dans ce sens, sur le plan bilatéral, étaient malheureusement neutralisés par une espèce de politique qui n'avait pas de sens, c'est-à-dire que voici un pays démocratique, voici un pays qui profite de l'état de droit, qui entretient les rapports avec des dictatures, je prends le cas du Gabon, où les institutions ne répondent pas du tout à ce qui correspondrait à un état de droit, c'est-à-dire celui de protéger les intelligences, protéger justement les investissements, c'est-à-dire être capable de développer les ressources du pays pour faire émerger réellement sur le plan économique des pays en question. D'où toute cette distorsion que nous constatons entre la France et tous ces alliés francophones, si on peut les appeler ainsi. Oui, moi je crois en cet homme, mais encore une fois, je reviens sur le fait suivant. Si nos pays africains croupissent toujours sous des régimes dictatoriaux, par conséquent incompétents, bien entendu que nous ne verrons que les travers de cette francophonie-là. Alors que si cette francophonie pourrait, effectivement, comme l'a dit M. Bourouchia tout à l'heure, revoir sa copie dans le sens que pour être crédible, elle devrait contribuer à donner aux Africains plus de démocratie, faite d'alternance au sommet de l'État, et de là, inévitablement, arriver à un accroissement de leur bien-être, c'est-à-dire le bien-être des Africains, à travers la lutte contre la pauvreté. Donc, sur le plan économique, oui, la francophonie pourrait apporter quelque chose aux Africains, condition, effectivement, de revoir sa copie, et surtout du choix bilatéral.
Justement. Merci, docteur Bruno Elanguema. Et Joseph Pouloulou, vous avez eu une dernière réaction, 30 secondes.
Oui, mais je pense que l'Afrique et la France peuvent encore constituer une vraie communauté francophone, mais encore une fois, comme je l'ai dit, que la France ne se contente pas de nous amener la culture, mais qu'on aille vraiment vers le vrai combat qui vaille la peine aujourd'hui, c'est le combat économique et qu'on le mène en partenaire.
Bien sûr. En tout cas, messieurs Bruno Belanguema et Joseph Pouloulou, et Bruno Belanguema, je le disais, il est docteur, il est également professeur à l'Université de Bordeaux et président de la Convention de la diaspora gabonaise. Joseph Pouloulou, lui, il est journaliste congolais, il réside actuellement en France. En tout cas, merci d'avoir échangé avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique et sur des grands sujets d'actualité sur la francophonie tenue il y a quelques jours en République démocratique du Congo. Alors, nous devons également donner la parole à d'autres panafricanistes, comme je viens de le dire, et qui nous diront également ce qu'ils pensent de cette francophonie. Merci et bonne soirée.
Merci Sylvain Abbas. Au revoir.
Au revoir et bonne soirée à vous.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos.
Africa, c'est du blague et tu es. La politique America, Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. La politique France, Africa, c'est du blague et tu es. La politique America, Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. Ils nous vendent les hommes pendant que nous nous battons, et puis nos richesses. Et c'est des êtres suffis de voir l'Afrique toujours en guerre. Ils ont brûlé le Congo, enflammé l'Angola, ils ont ruiné le Gabon, ils ont brûlé Kinshasa. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique America-Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique America, Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. Ils cautionnent la dictature, tout ça pour nous affamer. Ils pillent nos richesses, pour nous enterrer vivants. Ils ont brûlé le Congo, enflammé l'Angola. Ils ont brûlé Kinshasa, ils ont brûlé Rwanda. France Africa, c'est du blague et tu es. La politique America, Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. La politique France Africa, c'est du blague et tu es. La politique America, Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. Babylone est très habile. Blague et tu es la 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 vigilance et résistance. Au Cassera, il y a de nombreux terres. Calibé, il y a de nombreux mutilés. Au Cangola, il y a de nombreux terres. Au Cassera, il y a de nombreux terres. Why, why? Why, why, who? La politique France Africa, c'est du blague et tu es. La politique America, Africa, why, why, c'est du blague et tu es. La politique France, Africa, c'est du blague et tu es. La politique America, Africa, why, why, c'est du blague et tu es. Blague et tu es. Ils vont nous blaguer et tu es. Blague et tu es, la 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 la. Ils veulent nous blaguer et tu es. Blague tu es, la 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 la, et puis nous blague tu es. Blague tu es.
Eh bien, blague tuée, la politique France-Afrique, c'est du blague tuée, je le disais, chanté par Tiken Diafakoli, l'Ivoirien. Vous êtes dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Nous débattons aujourd'hui et sur la francophonie qui s'est tenue tout récemment en RDC, en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Alors, qu'apporte réellement la francophonie à l'Afrique? Existe-t-il une francophonie économique entre la France et l'Afrique? Alors, nous avons débattu et dans la toute première partie avec Dr Bruno Elanguema, il est professeur à l'Université de Bordeaux et président de la Convention de la diaspora gabonaise, et également avec le journaliste congolais Joseph Pouloulou. Tout à l'heure, dans la deuxième partie que nous allons entamer tout de suite, nos invités sont déjà en ligne, en direct depuis Vienne et également à Paris. Nous recevons le Camerounais Paul Whiting, journaliste, essayiste, auteur, entre autres, en 2012, de Le Bourreau a tué trois fois. Réflexion sur des siècles des traites négrières, édition Horizon à Paris. Paul Whiting, bonsoir et merci d'être l'invité de Fenêtre sur l'Afrique.
Bonsoir, Sylvain. Bonsoir.
Merci. Également, Dr Yves Ekuyamaizo est également en ligne en direct depuis Vienne en Autriche. Dr Yves Ekuyamaizo est togolais. Il est directeur du groupe d'influence Afrocentricity, Think Tank. Il est également consultant international et enseigne dans un business school. Dr Yves Ekuyamaizo, bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Amos.
Merci d'être l'invité de Fenêtre sur l'Afrique. Alors, la toute première question, Dr Yves Ekuyamaizo, ma première question est quand même un peu complexe. Alors, à quoi sert la francophonie aujourd'hui, Dr Yves Ekuyamaizo?
Mais la francophonie, si vous posez la question comme cela, elle sert aux francophones. Puisque le nom semble dire tout.
Oui.
Mmh. En réalité, mmh, c'est une organisation internationale de la francophonie, l'OIF donc, qui porte cette francophonie. Parce que quand vous allez au niveau des individus, quand vous allez au niveau des institutions internationales entre autres, c'est beaucoup moins évident. Quand vous allez au niveau des langues, à part le français, puisque c'est cette langue qu'elle porte, les autres langues, notamment africaines, sont absentes. Et enfin, même si ici et là, il y a quelques petits budgets pour aller essayer de faire quelque chose. Donc, le fond de toute cette histoire, et il vaut mieux qu'on discute de comment ça a été structuré, cette institution. C'est structuré comme l'ONU, les Nations Unies. Et ce sont, les membres sont des États, des gouvernements. C'est pas des individus, c'est pas des sociétés privées, c'est pas des ONG, des organisations non gouvernementales, c'est pas la société civile, ce sont des États et des gouvernements qui partagent en commun la langue française, et il y a cinq valeurs qu'on retrouve dans leurs documents d'ailleurs. La diversité culturelle, qui donne quand même une place très très prépondérante aux Français. La paix, il se trouve que cette paix, on peut en discuter, dans les pays notamment où il y a des difficultés avec des États où il n'y a pas d'alternance politique. La gouvernance démocratique, telle que c'est formulé, c'est extrêmement bien. Sauf qu'en réalité, ce sont des pressions sur des gouvernements, en tout cas africains. La consolidation de l'état de droit et de la démocratie. Là, on pourrait faire le bilan, d'ailleurs, de l'ensemble de l'OIF, et même avant, la CCT, savoir en quoi la démocratie s'est vraiment améliorée. Et puis, la protection de l'environnement, où là, carrément, je crois que ça reste au niveau du langage. Donc, c'est dirigé par le secrétaire général que vous connaissez tous, Abdou Diouf, ancien président, depuis 2002 d'ailleurs. Donc, on peut se poser la question, combien de temps on reste à la tête de cette organisation? Parce que ça fait bientôt 10 ans. Et on fête d'ailleurs une journée internationale de la francophonie régulièrement, le 20 mars de chaque année, avec les résultats qui sont plutôt mitigés.
Docteur Yves Ekuyamaizo, merci. Alors, je m'adresse également au Camerounais Paul Whiting. Je le disais tantôt, il est journaliste, essayiste, auteur, entre autres, en 2012, de Le Bourreau a tué trois fois, réflexion sur des siècles et de traite négrière, édition Horizon à Paris. Alors, Paul Whiting, à part que la langue française facilite la communication dans certains pays de l'Afrique, et plus particulièrement au Cameroun, votre pays, et qui dispose de plus de 200 dialectes. Hein. Alors, à quoi sert la francophonie, Paul Whiting?
Avant de commencer, je salue Amaïso, l'étoile noire de Vienne. Voilà, j'ai lu du bonjour.
Écoute, oui.
Voilà, Yves a fait le point sur l'historique un peu de
de cette structure. Et comme il l'a dit, tout est dans le nom francophonie. Je crois le mot le plus important dans l'affaire, c'est le F. Qui comme F comme France et il a ajouté c'est vrai il a évoqué les questions de droits de l'homme de démocratie. Malheureusement pour nous même ces quelques aspects de manteau blanc se sont ajoutés vraiment plus tard quand c'était encore là cet été c'était uniquement la langue et puis comme il a dit ce n'est pas un problème d'homme c'est un problème de structure et je crois que on n'est pas tout le monde sait à qui ça profite cette structure et une fonction réelle ça c'est officiel la langue avec qui on partage la langue française etc je n'en reviens pas sur Diouf qui je crois qu'en Afrique, quand on finit d'être président de la République, on accepte d'être secrétaire général d'une organisation. C'est quelque chose comme ça à Paris, rue Bosquet, quelque chose comme ça. C'est rare que les Africains pour accepter des choses comme ça. Parce que, bon, voilà. Non, mais le fond, je crois que c'est Aimé Césaire, le grand Aimé Césaire. Mm-hmm. Bourdieu aussi, je crois qu'ils ont vu là. Je suis 200% d'accord avec eux. Ils l'ont dit, c'est un processus de prolongation de la domination coloniale française sur l'Afrique. Je crois que tout est dedans, là. C'est Bourdieu, le grand Bourdieu sociologue, Aimé Césaire, qui connaissait plus que personne la France et les faits, les questions coloniales, le père de la négritude. Il sait de quoi, il savait de quoi il parlait. Au fond, c'est ça la vérité. Peu importe tout ce qu'on peut raconter autour, les gens y vont pour des raisons. C'est même le contraire pour faire évoluer nos pays. Si les gens y vont dedans, si je voulais prendre un exemple, comme par hasard, je prendrais le Togo. Le Togo, on ne peut pas dire que l'OIF qui est donc l'organisme qui coiffe la francophonie, ignore ce qui se passe à Lomé depuis, j'allais dire depuis 1963, l'OIF n'existait pas. Je vais être cruel, je vais dire seulement depuis 2005, on sait ce qui passe. Et on sait ce que ceux qui vont, qu'on appelle les observateurs internationaux de l'OIF, vont, quand ils vont aux élections, surveiller ou regarder, observer les élections dans nos pays. Je crois qu'on connaît la réponse d'avance, avant même qu'il y aille.
Mmh,
il y a eu quelques petites fraudes, mais ce n'est pas suffisamment important pour que on remette en cause, pour que M. Bongo remplace son père, M. Faure remplace son père, demain le fils de Biya remplace Biya, demain le fils de Sassou Nguesso remplace Sassou Nguesso. Parce que, je vais dire, quelque part, Sylvain, l'Afrique, les Africains, surtout oui. Le peuple africain, on s'en fiche un peu à Paris. On s'en fiche. Et ça donne raison à De Gaulle. De Gaulle a dit un jour...
On va y arriver.
La France n'a que les intérêts.
Bien sûr.
La France n'a pas dit.
D'accord. Merci. On va quand même aller dans les détails puisque nous avons encore un maximum 25 minutes. Alors la deuxième question, je vais tout de suite la soumettre au docteur Yves Kouya Maïzo. Alors François Hollande affirmait dans une interview il y a quelques jours que la francophonie ne peut exister sans les pays africains qui parlent cette langue de Molière. Alors la francophonie et l'immigration choisie, est-ce que cela continue, docteur Yves Kouya Maïzo?
Écoutez, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord bien sûr saluer un grand écrivain qui est Paul Reuting, et je voulais lui suggérer que le titre de son dernier livre, que je trouve fantastique, « Le bourreau a tué trois fois », il va falloir qu'il améliore le titre pour quatre fois en rajoutant
justement
la suite pour la francophonie.
Il a entendu,
parce que la réflexion sur le siècle des traites négrières et ses prolongations à travers ce que le général de Gaulle avait appelé la grande communauté France-Afrique, ce n'est que la quatrième fois que le bourreau est en train de tuer et les langues africaines, est en train de tuer la démocratie africaine, en train de tuer le peuple africain, parce que derrière cela, ce sont des pauvretés extraordinaires qui font des morts tous les jours, des enfants qui ne vont pas à l'école. Alors, c'est en cela que je veux aborder votre deuxième question sur l'immigration. Si tout allait bien dans les pays francophones, qui ferait de l'immigration? Qui viendrait même? Même si on nous choisissait, on n'irait pas. Donc vous voyez bien que c'est un problème d'abord économique de vivre heureux chez soi. Alors, D'ailleurs, ce n'est pas un problème de la francophonie en soi, c'est un problème de la France. C'est la France qui a mis en place cette histoire d'immigration choisie, que beaucoup ont critiqué. D'ailleurs, le secrétaire général lui-même, Abdou Diouf, n'était pas du tout d'accord là-dessus. À l'époque, même Conaré a fait des diatribes terribles là-dessus. Donc, on ne va pas trop revenir dessus. Votre question, est-ce que ça continue ? Mais bien sûr que ça continue, puisque ça ne s'est jamais arrêté. Aucun pays occidental, aujourd'hui, ne fait pas de l'immigration choisie. Certains sont plus subtils que d'autres. Les Américains ont mis en place une loterie qui choisit toujours les meilleurs médecins, qui choisit toujours les meilleurs intellectuels, qui choisit toujours les meilleurs techniciens. Mais c'est rare de voir les autres. Quand les autres y viennent, c'est pour aller faire le déménagement aux États-Unis ou faire McDonald's. Donc, l'immigration choisie a toujours existé. Le problème de fond ici, c'est la notion que nous, Africains, n'avons pas développée. Le problème de l'immigration est à sens unique. Alors que la migration est dans les deux sens. Vous émigrez, vous immigrez. Et cela revient à la problème économique. Et là, je pense sur le contrôle de Paul Hutchins, qui lui-même est un grand économiste. Donc, votre question, ce n'est pas comme ça qu'il faut le poser. Il faut savoir, est-ce que la francophonie a contribué à faire qu'il n'y ait pas de bien-être dans les pays francophones ? Et cela a eu pour conséquence, bien sûr, des gens qui partent ailleurs pour aller trouver le bonheur. Beaucoup ne le trouvent pas, et beaucoup sont sélectionnés pour pouvoir le trouver. D'ailleurs, c'est la deuxième, troisième, quatrième génération qui s'en sort aujourd'hui. Les premières générations, ce n'était pas du tout évident. Le problème, c'est que certains pays qui sont entre-temps devenus un peu plus riches, en termes d'argent, surtout au niveau des États, ont mis en place ce qu'on appelle la réciprocité. J'étais en Algérie il n'y a pas longtemps, il y a une réciprocité. Donc, si vous faites la queue pour avoir votre visa en France, vous ferez la queue avec l'ambassade algérienne, etc. Mais les petits pays, au sens économique, ne peuvent pas se le permettre. Et donc, il y a un alignement qui s'est fait là-dessus, qui est tellement grave que parfois, on ne sait pas si Hollande va poursuivre en ce sens, mais en tout cas, avant, on pouvait même venir déranger un opposant politique, notamment immigré en France, soit le menacer de le faire rentrer, ce qui l'amène à devenir silencieux, il n'est plus opposant, soit s'il devient vraiment turbulent, on s'arrange, soit qu'il perde son emploi et qu'il retourne. Et il y a un jeu entre les gouvernements francophones africains, le gouvernement français, qu'on ne peut pas exclure. Alors je suis d'accord avec Paul Hutchins sur l'homme qui est Hollande, qui a des principes.
Justement.
La réalité, c'est que face à l'argent, face aux besoins qu'il a, avec une économie qui tourne autour de 0,3-0,5% actuellement, 0,8% éventuellement au niveau des chiffres, en tout cas c'est zéro, hein, pour être dire la vérité, par rapport à l'Afrique qui est à 5%, quand quelqu'un du côté de Congo va envoyer des valises, même si c'est d'une manière électronique, ce serait difficile de dire non.
Justement.
Et donc ça va prendre d'autres formes qu'il va falloir utiliser pour comprendre comment cela se passe. Ce n'est plus nécessairement l'homme, la femme qui va faire l'objet de l'immigration, c'est plutôt nos ressources financières, nos ressources tout court, et je ne vais pas revenir sur le franc CFA, etc., qui déjà prend 50% de nos richesses.
Merci. Merci, Dr. Yves Kouyama. Bien avant de laisser et Paul Hutchins, journaliste et écrivain, réagir sur cette question de l'immigration et la francophonie, et nous allons quand même marquer une pause musicale, le temps d'aborder réellement la deuxième partie de cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Merci quand même pour votre fidélité.
Me wa mi ura subliwo, alale kajigi, Jigi jigi, Allah le ka jigi. Jigi jigi, c'est Dieu qui t'envoie à boaké. Boaké boaké, c'est Dieu qui t'envoie à boaké. Envoyé envoyé, nous allons Côte d'Ivoire pour apporter la paix. Nous allons à boaké chez Papa Kamagaté. Nous allons en Afrique chanter Namioringetio. Nous allons Côte d'Ivoire pour prier notre Seigneur. Kamagaté Amadou. Me wa nyami aboka wo, me wa mi urasi wo, kamagate amadu. Me wa nyami aboka wo, me wa mi urasi wo, kamagate amadu. Me wa nyami aboka wo, me wa mi urasi wo, kamagate amadu. Me wa mi urasi wo.